Dans Réveillez-vous, on parle énergie avec Éric Détron.
C'est vraiment une trame énergique.
Ça. Ah, mais ça, c'est de l'énergie. C'est Éric Détron, comment ça va?
Ça va bien vous-même?
Ben oui, ça va très bien, ça va très bien. Hier, on a reçu Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal qui nous mentionnait un peu de son inquiétude envers l'énergie au Québec et surtout l'énergie qu'Hydro-Québec a et qui reste. Et on veut en parler également ce matin.
Oui, oui, on va en parler. En fait, il y a eu une rencontre lundi, une rencontre qui donnait le ton, en fait, qui donnait le signal de départ de la consultation du gouvernement sur l'avenir énergétique au Québec.
Oui.
Et en fait, on en a parlé il y a deux semaines ensemble. C'est à peu près ce que moi je prévoyais, c'est-à-dire que c'est pas nécessairement une consultation sur l'énergie au Québec au sens large. Je pense qu'on peut dire maintenant, sans se tromper, que ça va être une consultation sur l'avenir d'Hydro-Québec.
Ouais.
Je pense que ça va être à peu près ça. Là.
Mm-hmm.
Parce que ce qu'il y avait au menu lundi, là, il y avait des ateliers qui s'appelaient « Équilibre entre l'offre et la demande ». Ça veut dire, en d'autres mots, là, ça veut dire quels projets on privilégie par rapport à d'autres. Il y avait également un atelier sur la tarification. Alors, vous voyez à peu près le genre. Et sur la question de l'équilibre entre l'offre et la demande, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est qu'on va en perdre des projets.
C'est sûr.
Il n'y a jamais eu de consultation au Québec sur quel projet on prend puis quel projet on rejette. C'est tout à fait nouveau. Là. C'est tout à fait inusité, cela. Et ça veut dire qu'il y a des projets qui vont être refusés parce qu'on n'a pas assez d'électricité. On a commencé, d'ailleurs.
Oui,
parce qu'il y a quelques semaines, on en a parlé. On a perdu Volkswagen, déjà.
Mm-hmm. Oui, oui.
Volkswagen qui est allé s'établir en Ontario. Et non seulement on a perdu Volkswagen, mais on a perdu les 13 milliards du gouvernement fédéral qui venait avec. Parce que c'est le total de l'argent qui a été consenti par le gouvernement fédéral en place pour l'usine de batterie que Volkswagen va faire à Saint-Thomas en Ontario. Alors, on a perdu ça. On a perdu celui-là. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres qu'on va perdre parce qu'on n'a pas assez. Et non seulement on va perdre des projets, mais les projets qu'on va choisir ne sont pas nécessairement les meilleurs pour l'économie. Je ne sais pas si Daniel Giguère en parlait hier. Je ne l'ai pas écouté malheureusement, mais les projets qu'on va choisir ne sont pas les projets qui sont les meilleurs pour l'économie. C'est les projets qui vont être les meilleurs pour l'environnement.
Mm-hmm.
C'est ça la grille qu'on va appliquer pour choisir ces projets-là. C'est-à-dire ceux qui sont conformes aux politiques du Québec vers la réduction des émissions, par exemple. Alors, est-ce que ce sont les projets qui vont créer le plus de jobs? Ben, on va l'espérer, mais c'est pas garanti du tout, là.
Mm.
Et pour ce qui est des tarifs, la tarification, ben là, on va parler du citoyen. Alors, on a parlé, il y a deux semaines, quand on a parlé des tarifs,
oui.
On parlait des tarifs aux PME, qui sont déjà plus chers. On vient de parler des grands projets industriels. Il est évident qu'il va y avoir une tarification en fonction du bilan environnemental. Encore une fois, on vient de le dire. Mais pour le citoyen, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir une tarification qui va être... qui sera pas uniforme, encore une fois. Puis ceux qui ont prêté attention en fin de semaine au congrès de la CAQ, ils ont bien entendu le premier ministre en parler. Évidemment, on est au début du processus. On est à 3 ans des élections. C'est évident que le gouvernement ne voudra pas s'aliéner une partie de la population en faisant grimper la facture d'Hydro-Québec. Mais c'est très bien ce qui pourrait arriver. Excusez-moi, c'est bien ce qui pourrait arriver. En tout cas, pour l'instant, on a entendu le premier ministre nous dire qu'il y aura ce qu'on appelle des bonus. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui paieront leur électricité moins cher. Mais ça veut dire qu'il va falloir changer nos comportements.
Oui.
Le soir,
alors,
la nuit.
Il y a des blagues, hein, il y a quelques semaines avec le lave-vaisselle à minuit puis la douche en 11h30. C'est vrai. C'est ça qui s'en vient.
C'est ça qui s'en vient.
Oui.
Ça me fait penser à la Maison Bleue. C'est plate à dire, mais ils sont obligés de faire du délestage. Puis là, ben, ils prenaient pas plus qu'une douche une douche aux 3 jours, etc., pour économiser l'électricité.
Oui.
Alors qu'on est supposé être ceux qui en produisent le plus dans le monde.
Oui, et ça va être le chauffage aussi.
Ça va être le chauffage aussi.
Ben, moi, je chauffe au granule, fait qu'ils ont bien beau.
Cet hiver, on a d'ailleurs battu la pointe là, de consommation historique. À plus de 43 000, une pointe historique. On visait 40-41, finalement, c'était 43. Je pense que ça a fait surprendre bien des experts.
Oui, alors là, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose de bien intéressant. Il va falloir suivre s'il y a effectivement des gens qui vont changer leurs habitudes de vie. Moi, je suis très sceptique. Ah. Je m'excuse, là, mais les gens ne sont pas debout 11h30, minuit, soir.
Non.
Ils dorment.
Ils dorment.
Ils sont ailleurs.
Oui.
Baisser le chauffage à 18-19, les gens qui ont des enfants ne feront pas ça.
Non.
Je m'excuse, là, mais les gens qui ont des enfants, ils ne feront pas ça. Alors, la question se pose, si les bonus ne fonctionnent pas, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va y aller avec du malus. Et on va revenir avec des pénalités pour ceux qui consomment trop. Puis là, ça va être quoi, la pénalité?
Monter les tarifs. Tout court.
Ben oui, puis comment on va l'appliquer, tout ça? Tu sais, je veux juste vous rappeler là, que 44% des ménages au Québec sont à 200$ de ne pas pouvoir payer leur loyer chaque semaine. Je veux juste vous rappeler ça, là. Et le coût de la vie ne va pas cesser d'augmenter, là, parce que le coût de l'énergie va être de plus en plus élevé, là. Il y a d'autres taxes fédérales qui s'en viennent, là, des taxes carbone. Il y a d'autres réglementations qui s'en viennent.
C'était combien ta statistique? 44%?
44% des ménages québécois sont à 200$ de ne pas être capable de payer leur hypothèque ou leur loyer aux deux semaines.
C'est épouvantable.
Alors là, à un moment donné, on joue un jeu dangereux, là, pour ce qui est du coût de la vie, puis bon, on en rajoute une couche avec ça. Mais il faut voir ça. Essayons de le voir de façon large. Et demandons-nous si le Québec est dans la bonne direction pour ce qui est de sa transition énergétique. Parce qu'en ce moment, moi, je vois beaucoup de coûts. Il y a le coût pour l'économie du Québec, on en a parlé. Il y a des projets industriels qu'on va échapper. Il y a le coût pour le contribuable, parce que le gouvernement sort de l'argent de ses poches, on subventionne des véhicules électriques à 5 000$ chacun. Faites le calcul, on en veut 1,3 million sur les routes en 2030. C'est bien inscrit dans les politiques du gouvernement. À 5 000$ chaque, une petite règle de 3, ça vous donne 9,5 milliards, ça.
Ouais, c'est sans compter l'augmentation d'électricité qu'ils vont prendre, qu'ils vont nous enlever, finalement, capacité. Bon.
Ben, c'est ça, là. Mais où sont les revenus là-dedans? Si on se compare à nos voisins, on regarde l'Ontario, par exemple.
Oui.
On a su cette semaine que l'Ontario, pour attirer le projet de Volkswagen, a choisi de repartir 4 centrales au gaz naturel, 4 centrales de production d'électricité au gaz naturel. Et au moment où on se parle, il y a des Albertains qui sont en Ontario qui sont en train de les aider à monter ça.
Bon.
On aurait pu l'avoir au Québec.
Mais
on
n'aurait
pas d'omerta politique sur notre gaz naturel. Notre gaz naturel, on en a, puis il est de meilleure qualité que celui de l'Ontario.
En plus, bon.
C'est ça que j'entends parler beaucoup, moi, que le gaz naturel, ça va être vers là qu'on devra se tourner, parce que les autres solutions ne sont pas assez rapides.
Ben,
toujours l'éolien, mais l'éolien a quand même des limitations, ça donne quand même des centaines de quantités, mais ben, on a du retard. Hein.
Ben, c'est ça. Alors donc, où sont les revenus pour le Québec? Si on se compare aux États-Unis, c'est encore pire. Je sais que je vous ai mis en dépression toute la journée quand je vous ai parlé de l'Inflation Reduction Act aux États-Unis. Mais si les États-Unis sont capables de verser des bonis aux entreprises pour qu'elles viennent s'établir aux États-Unis, puis partir un vrai sous-secteur de l'économie qui va être l'économie verte, l'économie renouvelable, bien, c'est parce que les États-Unis profitent aussi de la transition énergétique. Ils vendent leur pétrole puis leur gaz partout dans le monde.
Exactement. Puis je lis, entre autres, j'ai lu ça, c'était Stellantis a annoncé là, qu'il arrête de la construction d'usines de batteries pour l'instant, ce que le gouvernement s'est engagé pour 500 milliards, le Canada a leur donné, 500 millions, qui vont leur donner pour les aider. Et ce qui est dit dans l'article, c'est exactement ce que tu racontes. Les États-Unis, avec une loi qui a rapport à combattre l'inflation, vont faire en sorte que bien des gens vont être intéressés d'aller directement en sol américain.
Oui. Excuse-toi pas, Éric, c'est bien 500 milliards. Là.
Milliards, c'est bien
500
ça.
Milliards.
Milliards,
500
ben oui.
milliards que le Trésor américain va rendre disponible. Là.
C'est exact.
Alors, évidemment, on n'a pas cet argent-là.
Non.
Fait que là, la question qu'il faut se poser, c'est, y aurait-tu moyen de faire les choses autrement puis essayer de profiter de la transition énergétique comme l'Ontario et les États-Unis semblent le faire, je m'excuse, alors qu'au Québec, il semble bien que la transition, ça va juste être des coups pour le gouvernement. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça comme ça? Encore une fois, on est tout seul sur notre île. Puis on se dit, regarde, on va faire ça comme ça, parce qu'on est répondu les meilleurs. Puis, ouais, il y a juste un problème, c'est qu'on ne profite pas de la transition énergétique.
C'est ça, on va passer encore à côté, on va regarder passer le navire.
Comme on a fait avec le gaz, ben, pas le gaz, mais le pétrole au Canada, parce que ce que je savais pas, moi je pensais qu'on n'avait pas de pétrole à part en Alberta, mais c'est qu'on aurait la troisième plus grosse capacité de pétrole au monde. Puis regarde, oui, comment est-ce qu'on
l'exploite pas.
On le prend ailleurs.
C'est important. Oui, le Canada a les troisièmes réserves d'hydrocarbures les plus importantes au monde. Tu viens de parler des projets qu'on échappe. Ça me mène à mon autre sujet, les bélugas.
Oui, on a une belle étude, hein, un beau résultat qui ont sorti les derniers jours.
Alors, finalement, la population a doublé.
Hey.
Bon, on nous disait, souvenez-vous, là, pendant les audiences du BAP, on nous a dit pendant des mois qu'on mettait la population de bélugas en péril.
Oui, qui sont déjà une espèce menacée.
Déjà une espèce menacée, en mettant des vraquillés qui allaient travailler, qui allaient faire de transport pour GNL Québec. Ça allait s'ajouter à la flotte déjà présente. Bon, et là, ça a bien l'air que la population a doublé. Alors, à un moment donné, quelque part, là, il ne doit pas y avoir trop de problèmes. Mais je veux juste vous rappeler que le BAP, qui a refusé le projet, vous a donné trois raisons, Saguenay.
Oui.
La première, c'est qu'il n'y avait pas de marché pour le gaz naturel liquéfié.
C'est pas mal faux.
On sait que c'était complètement faux. C'est un marché qui est en explosion. Deuxième raison, pas d'acceptabilité sociale.
Qui est encore plus faux.
C'est encore plus faux. Puis la troisième raison, c'était les bélugas.
Qui finalement sont le double.
Ben oui, ça avait déjà joué au baseball, là. Un strike, deux strikes, trois strikes, t'es mort, là. À un moment donné, ça va faire rire dans la face du monde.
Moi, je me demande même si on devrait pas même réévaluer le rôle du BAP. C'est tellement un échec cuisant qu'on a vécu au Québec, je parle de la région, mais au Québec, que ça devrait être un précédent, dire, là, écoutez bien, vous venez de refuser un projet qui aurait dû passer.
Je laisse ça dans les mains de vos dirigeants régionaux, mais si j'en étais un, moi, je me dirais, il y a trois raisons pour lesquelles on a dit non, puis les trois s'avèrent fausses, on peut-tu recommencer?
Tout à fait.
À un moment donné, là, on peut-tu recommencer? On peut-tu, tu sais, comme on dit en bon québécois, on s'assure qu'on recommence?
Oui.
Parce qu'à un moment donné, là, ça va faire, là. Ça va faire rire dans la face.
Mais en même temps, ça va nous prendre un maire ou une mairesse qui va aller de l'avant aussi, parce qu'on sait que la mairesse qui est là présentement est ni chaud ni froid, on n'a pas plus d'opinion d'elle.
Elle n'est pas capable de générer des revenus, mais tu veux faire
en plus.
Ben, Didi, qu'elle allait prendre une photo avec un petit pack de béluga, là, puis ça va bien commencer sa campagne. Pas d'occupé. Vous m'avez posé une question sur le mégawatt.
Oui.
C'est compliqué, là, puis oui. Je vais faire de mon mieux, je vais prendre deux ou trois minutes pour vous expliquer ça. Et la raison pour laquelle les gens sont mêlés quand on parle de mégawatts est bien simple, c'est qu'il y a une différence énorme entre mégawatt et mégawatt-heure.
Mmh, oui.
Le mégawatt, c'est ce qui est produit. Alors, c'est une unité de puissance.
Oui.
Mégawatt, là, ça prend une centrale électrique, ça prend une locomotive, ça prend quelque chose pour la produire, cette énergie-là.
Oui.
Alors, un mégawatt, c'est ce qui est produit, donc c'est une unité de puissance. Le mégawatt-heure, c'est ce qu'un watt produit comme énergie en une heure. Donc, c'est pas une unité de puissance, c'est une unité d'énergie.
Okay. Résultat.
OK. D'où pourquoi j'avais de la misère à trouver des bonnes statistiques. Moi, selon ce que je vois, un mégawatt équivaut environ à l'alimentation en électricité de 600 000 loyers.
Ouais, je t'ai fait des calculs, Éric, plus simples que ça. Vas-y. La résidence moyenne au Québec consomme à chaque année 25 000 kilowatt-heure.
OK.
Ça va jusqu'à 30 000 si vous avez une piscine, puis un peu plus si vous avez l'air climatisé. Mais en règle générale,
ouais.
La résidence moyenne au Québec, c'est 25 000 kilowatt-heure par année.
Okay.
Donc, ça vous donne 25 mégawatt-heure par année.
Ah, OK.
OK. OK, c'est ça que ça donne. Alors, un kilowatt-heure, ça va éclairer la maison, je dirais, pendant à peu près une journée. Et un watt-heure, c'est 1000 fois moins.
OK.
Et ça nous ramène un peu à ce que je disais tout à l'heure. Volkswagen demandait une puissance installée de 800 mégawatts.
Oui.
Et non pas 800 mégawatt-heure.
Oui.
Ce que Volkswagen voulait, c'est un bloc disponible.
En tout temps.
En tout temps, parce qu'on avait de la misère à voir dans le temps comment on allait alimenter l'usine pendant toutes ces années-là. Donc, ils n'ont pas demandé une consommation de 800 mégawatts, parce que là, on aurait parlé de mégawatt-heure. Ils ont demandé un bloc de ce qu'on appelle la puissance installée de 800 mégawatt-heure, mais voilà. Alors voilà. Et pour avoir une ordre de grandeur, la centrale la plus importante au Québec, c'est la centrale qu'on a renommée Robert Bourassa, qui s'appelait LG2.
Oui, la grande.
Alors, voilà. Alors, cette centrale-là, LG2, pas la grande, LG2, parce que la grande, il y a quatre composantes. LG1, okay, 2, okay, 3, 4. Puis la LG2 a été renommée Robert Bourassa.
D'accord.
Lorsque M. Bourassa est décédé. Alors, LG2 produit 5600 mégawatts. Ça, c'est la plus importante au Québec. Puis j'ai fait une comparaison avec pas trop loin de chez nous. Le réservoir Péribonka, il y en a une centrale hydroélectrique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au confluent de la Péribonka puis de la rivière Matouane.
Oui.
Le réservoir Péribonka produit 400 mégawatts.
Il y a une bonne différence, hein?
Oui, il y a une bonne différence. Puis comme Volkswagen demandait 800 mégawatts, ben, quand vous passerez à la centrale, vous vous direz que pour attirer...
Ouais.
Les investissements comme Volkswagen, ça prendrait deux fois ce que vous voyez là, à Péribonka.
Et j'ai même un commentaire en passant, tu sais, par rapport justement à ce ménagement-là d'usine, que je te disais qu'on est supposé donner des gros montants au Canada. La Fédération canadienne des contribuables se demande, est-ce qu'on doit rejeter des demandes d'aide sociale des entreprises? Parce que ces entreprises-là, on parle de Volkswagen, tu sais, c'est 500 millions qui étaient sur la table pour les aider à construire une usine.
Oui, c'est une bonne question. C'est pas d'hier que ça existe.
Ouais,
le gouvernement du Québec, à l'époque, il y a une trentaine d'années, a voulu sauver la GM à Boisbriand. On était rendu à 1,5 million par emploi, là, en termes d'aide gouvernementale. Mais la question se pose, encore une fois, je dirais de façon plus précise, avec plus d'acuité, quand on regarde ça sous le prisme de l'énergie, parce que, comme je le disais tantôt, est-ce que ça va juste être une dépense, la transition énergétique?
Ouais.
Tu sais, pour le Québec, la question va se poser parce qu'on n'est pas capable de générer de revenus avec la transition. Fait que là, la question arrive, on est obligé de se fendre en cap, d'aller chercher des entreprises puis de compétitionner les autres. Mais avec 500 milliards, c'est un problème que les États-Unis n'ont pas, là.
Exactement.
Les autres, ils vont donner ce qu'il y a à donner pour aller chercher les sièges sociaux, la recherche et le développement, puis tout ce qu'il faut pour avoir un consortium d'énergie verte et d'énergie renouvelable, parce qu'ils savent que d'un autre côté, avec leur gaz et leur pétrole, ils s'enrichissent en même temps. Comme l'a fait la Norvège, par exemple, aussi, ou la Russie. On en a parlé beaucoup.
Oui, effectivement.
Alors, pourquoi le Québec doit absolument faire bande à part puis faire de la transition une grosse dépense? Parce que c'est de ça que ça a l'air en ce moment. Puis pas juste ça. C'est pas juste une grosse dépense. C'est qu'on est au pays de l'hydroélectricité.
En plus, ben oui.
On va baisser le chauffage, faire la vaisselle à midi.
C'est ça qui est inconcevable qu'on a de la misère, là, à faire le lien, dire, hey, on est la puissance hydroélectrique puis on manque de courant.
Même Cuba ne demande pas ça à ses citoyens de prendre le douche à telle heure ou telle heure ou telle heure. C'est sûr qu'eux autres, ils le font quand ils en ont, mais en tout cas. Non,
mais on aura sûrement la chance d'en rediscuter, Éric. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a.
Effectivement, le Québec qui manque d'hydroélectricité, c'est comme si Cuba disait demain matin, j'ai plus de sable.
C'est ça.
Ou que l'Alberta dirait, ben, j'ai plus de gaz là, aux stations. C'est aussi fou, ça. On pourra en parler.
Absolument. Éric Tétrault, merci beaucoup.
Merci.
Salut, à bientôt.
Très bonne journée. Si vous voulez de l'eau, allez du côté de l'Italie. On vient d'annoncer que le Grand Prix de Saint-Marin sur le circuit d'Émilie-Romagne, qui devait avoir lieu en fin de semaine, est annulé. Grand Prix de Formule 1.
C'est rare, ça.
Parce que ça fait 36 heures qu'il mouille. Il y a eu des débordements. Il y a eu 5 morts. Puis là, on a décidé que... Parce qu'on n'a même pas accès au circuit.
On va s'occuper de la place avant.
Il y a des grosses inondations, donc pour la Formule 1, on va y repasser. Grand Prix annulé pour en fin de semaine.